What's up?
Jingle.
Bonjour, vous écoutez en ce moment le Théâtre de la Gamelle, une émission de théâtre radiophonique en direct tous les vendredis sur Radio Canu. Aujourd'hui, nous allons clore notre cycle autour de Bertolt Brecht avec la lecture d'extraits du Petit Organon pour le théâtre, un texte édité en 1948. La compagnie des Montures du Temps étant actuellement en résidence de création pour son spectacle Cerises et Grenades, qui... d'ailleurs, ce jour-là, le 9 décembre, à 20h, salle Janton, à la MJC Laennec-Mermoz, nous prenons en charge, Sarah Sengbosque et moi-même, Marie-Laure Communal, l'émission d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, dans le studio avec nous, nous avons quatre comédiennes. Donc, tout d'abord, Sarah, bonjour.
Bonjour.
Explique-nous un petit peu ton actualité du moment, ce que tu vas faire cette année, etc.
Alors, en ce moment, donc la semaine prochaine, vendredi 2 décembre, au Théâtre des Ateliers, nous travaillons une lecture avec le Théâtre Narration de Sweet Summer Sweat par Laurent Contamin.
D'accord, ok. Et donc, nous avons aussi Anna Pabst.
Bonjour.
Alors, ton actualité du moment ?
Travaille donc actuellement avec le collectif Le Bleu d'Armand, anciens jeunes avignonnais du conservatoire. Voilà, sur notre première création collective, C'est dans l'ombre que le crocodile grossit le mieux. Également en tournée à partir de ce week-end, donc tous les week-ends jusqu'à mi-décembre, avec une comédie musicale pour enfants, Dream Up événement. Et en février, au Théâtre des Marronniers, sur un monologue de Valetti, une mise en scène de Karine Pochon, spectacle Marise à minuit.
Ensuite, nous avons aussi Nolwenn Le Dot, qui est comédienne. Bonjour.
Bonjour. Alors, avec mon amie Anna Pabst, qui vient de parler, nous sommes donc dans un collectif qui s'appelle Le Bleu d'Armand. Nous jouerons en Avignon au Théâtre des Carmes au mois de mars pour un festival de jeunes compagnies, ainsi que pour un autre festival de jeunes compagnies. Au mois de mai, le festival Émergence est toujours en Avignon. Notre création qui s'appelle « C'est dans l'ombre que le crocodile grossit le mieux », une adaptation d'un texte d'Hugo Claus, un auteur flamand.
Et pour finir, Julie Allard Schaeffer.
Bonjour.
Bonjour.
Alors,
Oui, donc tour d'actualité aussi.
Donc je fais partie de la compagnie des Chapshooters, c'est une compagnie jeune publique.
Ouais.
Et on travaille en ce moment sur un spectacle qui s'appelle « Chute, le roi pourrait t'entendre » en collaboration avec la MJC de Mon Plaisir. Non,
Oui,
de la belle, MJC. Bon, la MJC de Villeurbanne.
D'accord, ok.
Bonne terre, merci.
D'accord. Bon, alors avant de commencer la lecture, un petit mot un peu sur la biographie de Bertolt Brecht, ça peut faire du bien à tout le monde. Donc, Bertolt Brecht, c'était un dramaturge, un metteur en scène, un critique de théâtre, un poète allemand du début du XXe siècle. Brecht, il commence vraiment à écrire très tôt et à 20 ans, il a été mobilisé à la fin de la Première Guerre mondiale. Et l'horreur de la guerre aura vraiment une énorme influence sur son écriture, sur sa création, etc. Sa première pièce, c'était Bâle, ensuite Les Tambours de la Nuit, Dans la jungle des villes, Homme pour homme, Grandeur et décadence de la ville de Mahagoni, l'opéra de Katsu, dont on va écouter quelques extraits tout au long de la lecture, sur une musique de Kurt Weill. Dans les années 30, les nationaux socialistes commencent à interrompre les pièces de Brecht. Avec l'arrivée au pouvoir des nazis en 33, il quitte l'Allemagne et son œuvre est interdite et brûlée lors de l'autodafé de 33. Il parcourt l'Europe, il s'installe au Danemark, les nazis lui retirent sa nationalité allemande. Et il milite tout au long de son exil pour la défense de la culture à travers différentes revues, etc. En 39, il doit quitter le Danemark. Il s'installe en Suède et puis en Finlande. Et après, il traverse en bateau au départ de Vladivostok. Il s'installe en Californie en 1941. Et donc, là-bas, en Californie, il commence à écrire une grande partie de son œuvre. La vie de Galilée, Mère Courage et ses enfants, La bonne âme de Sichuan, La résistible ascension d'Arturo Huy, Le cercle de craie caucasien et Le petit organon pour le théâtre, dans lequel il exprime sa théorie sur le théâtre épique et sur la notion de distanciation. En 47, malheureusement, il est chassé des États-Unis en raison du maccartisme et il s'installe en Suisse. Et c'est finalement en 49 que Brecht s'installe définitivement à Berlin-Est et fonde avec sa femme Hélène Weigel le Berliner Ensemble. Là, il va commencer à radicaliser son processus de création théâtrale. Il s'oppose à la tradition d'un théâtre dramatique d'identification qu'on pourrait appeler le théâtre psychologique, donc il est totalement contre ce processus de création, et il va affirmer donc son théâtre dialectique. Voilà.
Traitons le théâtre comme un lieu de divertissement, ainsi qu'il sied dans une esthétique, et examinons quel genre de divertissement nous agrée.
Traitons le théâtre comme un lieu de divertissement, ainsi qu'il y a dans une esthétique, et examinons quel genre de divertissement nous agrée.
La musicienne, je crois.
Depuis toujours, l'affaire du théâtre, comme d'ailleurs de tous les autres arts, est de divertir les gens. Cette affaire lui confère toujours sa dignité particulière. Il n'a besoin d'aucune autre justification que l'amusement, mais de celui-ci absolument. En aucune façon, on ne pourrait le hisser à un niveau plus élevé si, en faisant, par exemple, on en faisait une foire à la morale. Même d'enseigner, on ne devrait pas le lui demander. En tout cas, rien de plus utile que la manière d'éprouver la jouissance de se mouvoir sur le plan physique ou intellectuel. Le théâtre doit en effet pouvoir rester quelque chose de tout à fait superflu. Ce qui signifie alors, il est vrai, que l'on vit effectivement pour le superflu. Rien n'a moins besoin de défenseurs que les réjouissances.
Même lorsqu'on parle d'un genre élevé et d'un genre bas de réjouissance, l'art vous oppose un visage de glace, car il souhaite se mouvoir à un niveau élevé et à un niveau bas, et être laissé en paix si, de la sorte, il réjouit les gens. Et il ne faut jamais perdre de vue que le plaisir pris à des représentations de la nature aussi différentes
n'a jamais été lié au degré de ressemblance entre la reproduction et ce qui était reproduit. L'inexactitude, même la forte invraisemblance, ne gênait guère ou pas du tout, pour autant que l'inexactitude avait une certaine consistance et que l'invraisemblance restait du même ordre. Il suffisait de l'illusion d'un déroulement contraignant de l'histoire considérée, laquelle était créée par toutes sortes de moyens poétiques et théâtraux. Nous aussi, nous ignorons volontiers ce genre de discordance lorsque nous pouvons profiter en parasite des purgations de l'âme de Sophocle ou des immolations de Racine ou des courses d'amok de Shakespeare en essayant de nous approprier les beaux ou grands sentiments des personnages principaux de ces histoires.
Car de toutes les multiples sortes de reproductions d'événements importants opposant des hommes qui ont été faites au théâtre depuis les anciens et qui, en dépit de leurs inexactitudes et de leurs invraisemblances, ont diverti, il en est encore aujourd'hui un nombre étonnant qui nous divertisse nous aussi.
Ne nous faut-il pas concevoir le soupçon que nous n'avons encore absolument pas découvert les réjouissances spécifiques de notre propre ère, sa forme à elle de divertissement ?
Lorsqu'en effet nous nous mettons en quête d'un divertissement, de nature immédiate, d'un plaisir ample, continu, que notre théâtre pourrait nous procurer avec des reproductions de la vie en commun des hommes, nous devons nous considérer comme les enfants d'un air scientifique. Notre vie en commun d'hommes, et cela veut dire notre vie, est déterminée dans une mesure toute nouvelle par les sciences.
Ce fut comme si l'humanité se mettait enfin, consciemment et unanimement, à rendre habitable la planète sur laquelle elle demeurait. Nombre des éléments de cette planète, tels le charbon, l'eau, le pétrole, se métamorphosèrent en trésors. La vapeur d'eau reçut l'ordre d'actionner des véhicules. Quelques petites étincelles et le tressaillement de cuisses de grenouilles révélèrent l'existence d'une force naturelle qui engendra la lumière, porta le son par-dessus les continents, etc. D'un regard neuf, l'homme examina partout comment employer pour son confort ce qu'il avait vu depuis longtemps, mais jamais mis à profit. Son environnement se métamorphosa toujours plus, de décennie en décennie, puis d'année en année, puis presque de jour en jour. Moi-même, qui écris cela, je l'écris avec une machine qu'à l'époque de ma naissance, on ne connaissait pas. Je me déplace avec les nouveaux véhicules à une vitesse que mon grand-père ne pouvait imaginer. Rien ne se déplaçait alors aussi vite. Et je m'élève dans les airs, ce que mon père ne pouvait faire. Avec mon père, j'ai déjà parlé du bout d'un continent à l'autre, mais c'est seulement avec mon fils que j'ai vu les images en mouvement de l'explosion d'Hiroshima.
De fait, les relations réciproques entre les hommes sont devenues plus opaques qu'elles ne l'ont jamais été. La gigantesque entreprise commune dans laquelle ils sont engagés semble les diviser de plus en plus. Toute augmentation de la production cause une augmentation de la misère. Et de l'exploitation de la nature, seul un petit nombre tire profit. Et cela du fait qu'ils exploitent des hommes. Ce qui pourrait être le progrès de tous tourne à l'avantage d'un petit nombre. Et une part sans cesse croissante de la production est employée à fabriquer des moyens de destruction pour des guerres formidables. Dans ces guerres, les mères de toutes les nations, serrant leurs enfants contre elles, scrutent le ciel abasourdi à la recherche des inventions mortelles de la science.
Mais la science et l'art ont ceci de commun, que tous deux sont là pour rendre aux hommes la vie plus légère. L'un pourvoit à leur subsistance, l'autre à leur divertissement. Dans les temps qui viennent, l'art tirera le divertissement de la nouvelle activité productive, laquelle peut si bien améliorer notre subsistance et qui, elle-même, pour peu qu'elle ne fût pas entravée, pourrait être la plus grande de toutes les réjouissances.
Nos reproductions de la vie en commun des hommes, nous les faisons pour les dompteurs de fleuves, les arboriculteurs, les constructeurs de véhicules, les chambardeurs de sociétés, que nous invitons dans nos théâtres et à qui nous demandons de ne pas oublier chez nous leur joyeux intérêt, afin que nous livrions le monde à leur cerveau et à leur cœur pour qu'ils le transforment à leur guise.
Le théâtre doit s'engager dans la réalité.
Thank you.
Le théâtre doit s'engager dans la réalité s'il veut avoir les moyens et le droit de fabriquer des reproductions efficaces de la réalité.
En tout cas, nous devrions excuser les gens de théâtre, car ils ne pourraient ni occasionner avec des reproductions plus exactes les réjouissances qu'on leur paie en argent et en gloire, ni placer leurs reproductions inexactes de manière moins magique. Nous voyons leur capacité de reproduire des êtres humains partout à l'œuvre. En particulier, les coquins et les personnages secondaires portent la trace de leur connaissance des hommes et se différencient les uns des autres. Mais les personnages centraux doivent nécessairement être tenus dans le général, afin que le spectateur puisse plus facilement s'identifier à eux. Et en tout cas, tous leurs traits doivent provenir de cette sphère limitée à l'intérieur de laquelle chacun peut immédiatement dire « Oui, c'est bien cela ». Car le spectateur désire entrer en possession de sensations bien précises, comme celles qu'un enfant peut désirer avoir lorsqu'il se met en selle sur un des chevaux de bois d'un manège. La fierté de savoir monter et d'avoir un cheval. Le plaisir d'être porté et de passer devant d'autres enfants. Le rêve aventureux qu'il est poursuivi ou en poursuit d'autres, etc. Pour que l'enfant vive tout cela, le fait que sa monture de bois ressemble à un cheval ne joue pas un grand rôle et que sa chevauchée se limite à un cercle étroit n'est pas une gêne. Tout ce qui importe aux spectateurs dans ces salles, c'est de pouvoir échanger un monde plein de contradictions contre un monde harmonieux, un monde pas spécialement connu contre un monde rêvable.
Le théâtre, tel que nous le trouvons, ne montre pas la structure de la société, reproduite sur la scène, comme influençable par la société dans la salle. Œdipe, qui a péché contre quelques principes, lesquels étayaient la société de l'époque, est exécuté. Les dieux s'en chargent. Ils ne sont pas critiquables. Les grandes individualités de Shakespeare, qui portent en leur sein les étoiles de leur destin, accomplissent, sans que rien ne puisse les arrêter, leurs vaines et mortelles courses d'amok. Elles mordent d'elles-mêmes la poussière. La vie, et non la mort, deviennent obscènes dans leur chute. La catastrophe n'est pas critiquable. Des sacrifices humains, encore et toujours, des amusements barbares. Nous savons que les barbares ont un art. Faisons-en un autre.
Combien de temps encore nos âmes vont-elles, profitant de l'obscurité pour quitter nos corps mastoques, s'introduire dans ces âmes oniriques, là-haut, sur le podium, afin de participer à leurs exaltations qui nous sont d'ordinaire interdites? Quelle libération est-ce là, puisque à la fin de toutes ces pièces, qui n'est heureuse que pour l'esprit du temps, l'opportune providence, l'ordre moral, nous vivons l'exécution onirique qui punit les exaltations comme des débauches? Nous nous glissons dans Œdipe, car les tabous existent toujours et la méconnaissance ne protège pas du châtiment. Dans Othello, car la jalousie nous donne toujours du fil à retordre et de la propriété tout dépend.
Nous avons besoin d'un théâtre qui ne permette pas seulement les sensations, les aperçus, les impulsions qu'autorise à chaque fois le champ historique des relations humaines sur lesquelles les diverses actions se déroulent, mais qui emploie et engendre les idées et les sentiments qui jouent un rôle dans la transformation du champ lui-même.
Si nos personnages sur la scène sont mus par des moteurs sociaux et par des moteurs différents selon les époques, nous faisons qu'il est alors plus difficile à notre spectateur de s'identifier. Il ne peut pas tout simplement sentir « moi aussi, j'aurais agi ainsi ». Tout au plus peut-il dire « si j'avais vécu dans de telles circonstances ». Et si nous jouons des pièces tirées de notre propre temps comme des pièces historiques, il se peut que les circonstances dans lesquelles il agit lui apparaissent également particulières. Et c'est là le commencement de la critique.
Le mode de jeu qui, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, a été mis à l'épreuve au Schiffbauer Damentheater de Berlin pour fabriquer de telles reproductions, repose sur l'effet de distanciation. Une reproduction qui distancie est une reproduction qui, certes, fait reconnaître l'objet, mais qui le fait en même temps paraître étranger.
C'est l'étonnement, aussi difficile que productif, que le théâtre doit provoquer par ses reproductions de la vie en commun des hommes. Il doit amener son public à s'étonner, Et cela se fait à l'aide d'une technique de distanciation familier.
Nous n'avons pas à prendre l'homme comme point de départ, mais comme but. C'est dire du même coup que je ne dois pas simplement me mettre à sa place, mais que, représentant de nous tous, je dois prendre position face à lui. Voilà pourquoi ce qu'il montre, le théâtre doit le distancier.
Pour produire des effets de distanciation, le comédien dut se garder de tout ce qu'il avait appris pour être en état de causer l'identification du public avec ses compositions. Ne visant pas à mettre son public en transe, il ne doit pas se mettre lui-même en transe. Que sa diction soit exempte de tout ronron de curé et de ces cadences qui bercent le spectateur, si bien que le sens se perd. Même lorsqu'il représente des possédés, il ne doit pas faire l'effet d'être lui-même possédé. Sinon, comment les spectateurs pourraient-ils découvrir ce qui possède les possédés ?
In der Erinnerung an ihre gemeinsame Jugendzeit singen der Räuber McKees und der Polizeipräsident Braun den Kanonensong.
John war der Runter und Schimmer dabei
und George ist Sergeant geworden.
Doch die Armee, sie verkennen, wer er sei
und marschiert hier hinauf nach dem Norden. Soldatenbohnen.
Ne braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Beefsteak Tartar.
Johnny war der Whisky zu warm
und Jimmy hatte nie noch Decken,
aber Georgie nahm beide bewarm
und sagte, die Armee kann nicht verrecken.
Soldatenbohnen auf den Kanonen. Und es begegnete ihnen neue Rasse, ne braune oder blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Bistik Tartar.
John ist gestorben und Jimmy ist tot
und George ist vermisst und verdorben.
L'observation est une partie essentielle de l'art dramatique. Le comédien observe autrui de tous ses muscles et de tous ses nerfs par un acte d'imitation, qui est en même temps un processus de réflexion. Car une simple imitation redonnerait au mieux ce qui a été observé, et ce n'est pas assez. Car l'original exprime ce qu'il exprime à voix trop basse. Pour passer du simulacre à la reproduction, le comédien regarde les gens comme s'il lui donnait à voir ce qu'ils font. Bref, comme s'il lui recommandait de méditer ce qu'ils font.
Sans conception ni intention, on ne peut faire aucune reproduction. Qui ne sait rien ne peut rien montrer. Comment saurait-il ce qui vaut la peine d'être su ? Si le comédien ne veut pas être un perroquet ou un singe, il lui faut s'approprier, en partageant les luttes des classes, le savoir de son époque sur la vie en commun des hommes.
Aussi, le choix du point de vue est-il une autre partie essentielle de l'art dramatique, et il doit nécessairement être opéré en dehors du théâtre. Tout comme la transformation de la nature, la transformation de la société est un acte de libération, et ce sont les joies de la libération que devrait transmettre le théâtre d'une ère scientifique.
Allons plus loin en examinant comment, à partir de ce point de vue, le comédien doit, par exemple, lire son rôle. Là, il importe qu'il ne comprenne pas trop rapidement. Même s'il découvre d'emblée l'intonation la plus naturelle de son texte, la manière la plus commode de le dire, il ne doit pas considérer pour autant cet énoncé même comme le plus naturel, mais au contraire hésiter et faire appel à son opinion en général, s'interroger sur d'autres énoncés possibles, en un mot, adopter l'attitude de qui s'étonne.
Et l'étude du comédien doit être entreprise en même temps que l'étude des autres comédiens. Sa construction du personnage en même temps que la construction des autres personnages. Car l'unité sociale est la plus petite n'est pas l'homme, mais deux hommes. Dans la vie aussi, nous nous construisons les uns les autres.
À cet égard, il y a quelque peu à prendre de cette mauvaise habitude de nos théâtres où le comédien dominant, la vedette, se met aussi en évidence, en se faisant servir par tous les autres comédiens. Il rend son personnage redoutable ou plein de sagesse en obligeant ses partenaires à rendre le leur timoré ou attentif, etc. Ne serait-ce que pour accorder à tous cet avantage et servir ainsi la fable, les comédiens devraient parfois, au cours des répétitions, échanger leur rôle avec leurs partenaires, afin que les personnages reçoivent les uns des autres ce dont ils ont besoin les uns des autres.
Tout est fonction de la fable. Elle est le cœur du spectacle théâtral. La grande entreprise du théâtre, c'est la fable. Cette composition globale de tous les processus gestuels, contenant les informations et les impulsions qui devront désormais constituer le plaisir du public.
Afin que le public ne soit surtout pas invité à se jeter dans la fable comme dans un fleuve pour se laisser porter indifféremment ici ou là, il faut que les divers événements soient noués de telle manière que les nœuds attirent l'attention. Les événements ne doivent pas se suivre imperceptiblement. Il faut au contraire que l'on puisse interposer son jugement.
Ce qui est et comment cela est et comment cela est à distancier dépend de l'exégèse qui doit être faite de l'événement global. Et là, le théâtre peut défendre avec vigueur les intérêts de son temps. Prenons comme exemple d'exégèse cette pièce ancienne, Hamlet. Eut égard aux sombres et sanglantes circonstances dans lesquelles j'écris ceci, à des classes dominantes criminelles, à un doute généralisé envers cette raison dont on ne cesse d'abuser, je crois pouvoir lire cette fable ainsi. Les temps sont à la guerre. Le père d'Hamlet, roi de Danemark, a tué le roi de Norvège au cours d'une victorieuse guerre de rapine. Au moment où le fils de celui-ci, Fortin Brasse, s'arme pour une nouvelle guerre, le roi danois est à son tour tué, et cela par son propre frère. Les frères des rois tués, maintenant eux-mêmes rois, préviennent la guerre dans la mesure où les troupes norvégiennes sont autorisées à traverser des territoires danois pour une guerre de rapine contre la Pologne. Or voici que le jeune Hamlet a été appelé par le fantôme de son guerrier de père à venger le forfait dont il a été victime. Après avoir quelque peu hésité à répondre à un acte sanglant par un autre acte sanglant, voire déjà résolu à s'exiler, il rencontre sur la côte le jeune Fortin Brasse qui est en route avec ses troupes pour la Pologne. Subjugué par cet exemple guerrier, il fait demi-tour et, en un barbare carnage, saigne son oncle, sa mère et se saigne lui-même, abandonnant le Danemark aux Norvégiens. Dans ces processus, on voit cet homme jeune, mais déjà un peu replet, appliquer de façon fort infusivante la raison nouvelle qui l'a ramené de l'université de Wittenberg. Dans les affaires féodales où il se retrouve plongé, elle lui fait obstacle. Face à la déraisonnable pratique, sa raison n'est absolument pas pratique. Il est tragiquement victime de la contradiction entre une telle manière de raisonner et un tel acte. Cette lecture de la pièce, qui supporte plus d'une lecture, pourrait à mon sens intéresser notre public.
L'exégèse de la fable et sa transmission au moyen de distanciation appropriée sont la tâche principale du théâtre. Et le comédien n'a pas tout à faire. Même si rien ne doit être fait qui ne soit en relation avec lui. La fable est soumise à l'exégèse, produite et exposée par le théâtre dans sa totalité, par les comédiens, décorateurs, maquilleurs, costumiers, musiciens et chorégraphes. Tous, ils associent leurs arts pour l'entreprise commune, sans toutefois abandonner leur autonomie.
Que tous les arts frères de l'art dramatique soient donc invités ici. Non pour fabriquer une œuvre d'art totale, dans laquelle ils s'abandonneraient et se perdraient tous, mais pour que, de pair avec l'art dramatique, ils fassent avancer la tâche commune, chacun selon sa manière, et leurs relations les uns avec les autres consisteront à se distancier mutuellement.
En effet, il faut que les reproductions s'effacent devant ce qui a été reproduit, la vie en commun des hommes, et le plaisir procuré par leur perfection doit être portée au plaisir plus élevé de voir traitées comme provisoires et imparfaites les règles mises en évidence dans cette vie en commun. C'est en cela que le théâtre laisse le spectateur productif, par-delà le regard porté sur le spectacle. Dans son théâtre, puisse le spectateur jouir comme d'un divertissement de ses terribles et interminables travaux qui sont censés lui assurer sa subsistance, ainsi que de l'effroi de son incessante métamorphose. Qu'il s'y produise de la façon la plus légère, car le mode d'existence le plus léger est dans l'art.
Voilà, donc nous avons lu des extraits du Petit Organon pour le théâtre de Bertolt Brecht, qui a été donc, comme j'ai dit tout à l'heure, édité en 48. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire justement de cet écrit? Quelles questions on peut se poser, alors, nous, en tant que comédiens, à travers ce texte, en fait?
Alors, peut-être c'est bien de redonner une définition du divertissement, parce qu'on a beaucoup parlé de divertissement à travers le texte.
De et jouissance, voilà, du spectateur, etc.
Et ce terme a un peu... péjoratif.
Oui, aujourd'hui, le divertissement société. A un peu un autre sens, plus un genre TF1, quelque chose comme ça.
Donc, il faut entendre le terme divertissement utilisé par Brecht de manière positive.
Ouais.
Et voilà, je pense que dans les traités là qu'on a lus, divertissement, effectivement, n'a pas du tout la même connotation qu'elle a aujourd'hui dans le sens de détourner,
de consommer, voilà, consommer
de quelque chose de spectacle, productif. Ouais. Tout ça, à l'époque, il semblait plus que c'était une façon de rendre accessible l'art, le spectacle.
Oui, rendre accessible aussi des concepts philosophiques, par le biais de la fable, etc.
Ce qui est bien aussi, c'est peut-être de voir comment certains de ces textes peuvent résonner aujourd'hui.
Oui, est-ce que nous, dans nos créations, est-ce qu'on utilise un peu le processus de distanciation? Est-ce qu'on mélange pas aujourd'hui un peu distanciation, psychologie? Enfin, je sais pas,
En tout cas, moi,
vous,
quand
vos créations,
je travaille avec des comédiens, je trouve ça très intéressant que les comédiens échangent leur rôle.
Ouais.
Ils en parlent à un moment donné. Ouais. Ça permet vraiment d'avoir une distance par rapport au personnage à jouer. Parce que la notion de personnage est déjà compliquée.
Et puis c'est surtout que, du coup, par rapport à ce qu'on a lu aussi dans l'échange des rôles et par rapport à cette idée de la vedette, etc., le fait d'échanger les rôles, en fait, on place pas le comédien au centre de la création, mais on replace effectivement la fable au centre de la création. Et le fait d'échanger, en fait, les rôles entre comédiens permettent déjà
de se nourrir les uns les autres,
de gommer un peu les égos, et puis aussi du coup d'aller plus loin dans l'étude du coup de la pièce et de la fable, de comment on va de tel nœud à tel nœud de l'action, comme il disait aussi, aussi
les événements, comment
les événements. Après, je crois que sur ce qu'on disait par rapport à la notion de distanciation, comment nous on l'utilise actuellement aujourd'hui, j'ai l'impression que ça dépend aussi beaucoup des textes. Il y a des textes qui s'y prêtent effectivement bien, et d'autres sur lesquels
Tchekhov, ce serait plus difficile.
Ce serait plus difficile de faire de la distanciation.
La distanciation.
Mais c'est vrai que c'est bien de l'avoir en tête.
Oui,
effectivement. Mais je pense que ça dépend vraiment aussi de quel texte on monte.
Et alors, est-ce qu'il y a un texte de Brecht que vous aimez particulièrement, une pièce en particulier?
L'opéra de Katsu. Oui, et aussi Grand Peur et Misère du Troisième Reich.
Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das nötige Geld vorhanden? Ist das Ende gut, dass nur er im trüben Fische hat der Hinz den Kunst bedroht, doch zum Schluss vereint am Tische essen sie des armen Brot. Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.
Donc dans le studio aujourd'hui, nous avons Jean-Marc Avocat qui nous a rejoint pour nous parler de son spectacle Andromaque, Bérénice et Phèdre de Jean Racine. Donc bonjour Jean-Marc.
Bonjour. Oui. Il s'agit de trois spectacles.
Trois spectacles.
Trois, oui.
Trois spectacles que vous jouez à la suite.
L'un après l'autre. Ouais. Avec des pauses.
Ouais. Bah oui, je me doute parce que enchaîner trois tragédies sans s'arrêter, ça doit être assez difficile. C'est pas
déjà
possible.
Déjà en s'arrêtant, c'est déjà.
Ouais, c'est déjà assez
compliqué.
Ouais, oui. Je me doute. Et alors, du coup, pourquoi avoir choisi Jean Racine? Pourquoi avoir choisi ces pièces?
Ça, c'est une vieille histoire. Ouais. Racine, j'ai commencé il y a une dizaine d'années avec Phèdre.
D'accord.
Et puis après, j'ai rajouté Bérénice. Et puis, j'ai rajouté Andromaque. Et puis, j'ai trouvé que ça faisait une trilogie assez cohérente par rapport à Racine, puisque Andromaque est la première grande tragédie, Phèdre la dernière grande tragédie, et au milieu, il y en a une atypique, qui est Bérénice. Donc, j'ai trouvé que ça faisait après une sorte de... Ouais, de panorama cohérent sur Racine.
D'accord.
Alors, je les ai déjà joués les trois en trois jours.
Oui.
Au théâtre de la Croix-Rousse l'an dernier, oui. Et là, d'un seul coup, d'un seul. Je l'ai pas encore fait, hein.
D'accord.
Donc, c'est. J'ai pas de point de repère, j'ai pas de je sais pas du tout comment ça va se passer. Enfin, je répète évidemment.
Bah oui.
Et je vérifie à quel point c'est monstrueux à faire, quoi.
Ouais, ouais. Et pourquoi avoir eu le désir de le monter, de jouer seul, parce que vous jouez chaque personnage en fait.
Ouais.
Sur le plateau.
Bah ça, alors c'est la vieille histoire du choix de ce travail. C'est parce que j'ai toujours été assez passionné par Racine, hein.
Ouais.
Sinon je l'aurais pas fait. Et puis j'ai toujours été un peu déçu en tant que spectateur ou en tant qu'acteur à l'intérieur d'une tragédie de Racine, parce que je trouvais qu'il y avait rarement une cohérence de style dans la façon de dire les Alexandrins. Il y avait des
il y a
plein d'écoles différentes,
il y a plein d'un passé différent, et que
chaque fois qu'on change de style, chaque fois on coupe le fil de la transmission, et que donc il faut arriver à une cohérence absolue, et que finalement la cohérence absolue c'est de les dire tous soi-même.
Ouais, d'accord.
Parce que je ne prétends pas que ma méthode soit la meilleure,
ouais.
Mais au moins en tout cas sur
faire une tentative cohérente
voilà,
du début,
d'autant que je suis alors là aussi intimement persuadé que Racine c'est un auteur où rien n'existe en dehors du texte. C'est-à-dire que le spectaculaire chez Racine, c'est, je pense, toujours une erreur.
Le texte suffit à lui-même,
oui,
en fait, c'est ça que
vous
voulez dire.
Oui, parce qu'il y a tout dans le texte, il y a tout, il y a le décor, il y a la musique, il y a la bande-son, il y a absolument tout. Donc la seule chose à faire, si tant est qu'on y arrive, c'est à retransmettre dans sa totalité le texte avec tout ce qu'il toutes les informations qu'il donne.
D'accord.
Et qui ne sont pas uniquement des informations événementielles.
Mm-hmm.
Ils sont aussi sur l'état dans lequel se trouvent les personnages, enfin tout est dans le texte, il n'y a pas du tout, c'est le théâtre parfait où le fond et la forme sont absolument confondus.
D'accord. Et alors, du coup, quelle disposition scénique vous utilisez justement pour mener à bien donner le texte, etc.
Je mets un fauteuil au centre qui est un peu une sorte comme ça de plaque tournante, ou vaguement le fauteuil du pouvoir. Et puis, avec quelques déplacements, mais l'essentiel est assuré par la chorégraphie des regards. C'est-à-dire que pour faire exister une scène à deux, les regards sont... Ouais, je réponds par un regard. Ça se complique quand c'est des scènes à trois. Mais oui, c'est quand même tellement bien écrit qu'on ne se... On ne se trompe jamais, ou pratiquement jamais. Et puis, bon, quelques déplacements qui soulignent un peu les lignes de force des rapports entre les personnages. Voilà, je joue un acte dans sa totalité, ensuite je m'arrête, et je vais dans un coin, comme les boxeurs, entre deux...
D'accord, vous êtes sur un ring, en fait.
Oui, et je vais, elle, là, sur mon fauteuil de coin... Donc pendant une minute et demie, le public comprend qu'il peut se racler la gorge, changer de position, faire ce qu'il veut. Parce que moi je le fais aussi, tous les bruits du corps sont autorisés. Et je bois, je m'essuie, je... Il m'est même arrivé de changer de t-shirt.
Ouh.
Ouais.
C'est une performance.
C'est éprouvant, Racine.
Et puis je retourne pour l'acte suivant.
D'accord.
Mais c'est rigolo par rapport à la lecture qu'on vient de faire.
Parce qu'on vient de lire Le Petit Organon pour le théâtre de Brecht.
Voilà. Et du coup, c'était rigolo parce que justement, on soulignait le fait que dans les extraits qu'on a lus, on parlait d'échanger les rôles entre chaque comédien pour que ça apporte à la fable. Au final, vous le faites
tout seul. Oui.
Et surtout, du coup, on a parlé notamment de la grande question de la distanciation, qui est quand même la notion de Brecht. Et du coup, vous faites quand même des rôles féminins également.
Comment vous
éprouvez cette position de distanciation dans la création?
De toute façon, alors je ne cherche pas la distanciation brechtienne avec ça, pas du tout, parce que je m'investis vraiment. Je ne mets pas les personnages devant moi comme des marionnettes que je ferais bouger. Mais je trouve que il y a un tel travail sur les rythmes internes au vers que je suis les rythmes et non pas le sexe de tel ou tel personnage.
D'accord.
Et finalement, c'est pas parce que c'est une femme que je prendrai une voix aiguë et un homme une voix grave.
Oui, bien sûr, pas rentrer dans le cliché du féminin.
D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a eu, quand je jouais Bérénice, il y a eu... une critique qui a écrit une dame qu'au début on était bien un peu surpris de voir arriver une Bérénice chauve et légèrement bedonnante mais que après on oubliait, et que après chaque spectateur justement grâce au texte peut se raconter en plus, Bérénice, c'est sûrement très difficile à incarner parce que susciter un tel amour, ça prouve que la femme en question est une sorte de
mystère.
Ouais, un peu. Ouais. Donc, et je pense que l'imaginaire. Et vraiment sollicité par ce type de travail, quoi. C'est-à-dire que on s'imagine les personnages, et ce qui ne m'empêche pas de m'y investir dedans, mais je suis habillé pareil et le plus neutre possible en noir, telle façon que le fait que je sois légèrement bedonnant soit le plus possible
amoindri.
Et y a pas un poil qui dépasse. Donc voilà, c'est une forme d'épure.
Mais du coup, c'est aussi, ça fait vraiment écho. C'est assez intéressant de vous avoir là parce que ça fait écho un peu à ce qu'on vient de lire par rapport au fait, du coup, de la distanciation. Tout à l'heure, on se posait la question. de nous dans notre processus de création de jeunes comédiens, comment on arrivait à l'appliquer ou pas, est-ce qu'on l'utilisait ou pas, et tout de suite est venue la question du type de texte aussi. Et je pense qu'effectivement les alexandrins, ben c'est effectivement
une forme
déjà à elle-même, et effectivement assez rythmique, etc. Et ça permet déjà une sorte de...
Ouais, mais je
c'est un autre travail, on va dire.
Les alexandrins, après, y a quand même un peu une généralité. Mmh. Il y a...
Il y a des idées défendues, quand même.
Il y a 1658 vers dans Phèdre, par exemple. Je dirais qu'il y a presque 1658 alexandrins différents. Mmh. C'est pas... Ce qui est important, d'ailleurs, ce que, à mon avis, à mon sens, c'est de trouver la phrase... Et non pas l'alexandrin.
Oui, retrouver le sens.
Phrase,
oui, retrouver le sens.
Exactement, c'est comment les alexandrins servent la phrase.
Oui.
Parce que l'alexandrin pour lui-même.
Au départ, Racine, il écrivait en prose, ouais, et après, il a mis en alexandrin. Ouais. Donc, c'est évident pour les comédiens de retrouver absolument
le sens de la phrase.
Monsieur, oui, parce que sinon, ça fait une espèce de.
Ah, bah oui,
c'est impossible à rendre le sens concret de ce qui est dit.
L'incantatoire, et c'est pas du tout.
Et surtout qu'il y a des thèmes quand même philosophiques qui sont développés quand même dans les pièces, des positions, des opinions de tous les personnages.
Oui, oui, et puis il y a. Il y a
une
sorte de spéléologie dans l'âme humaine. Enfin, il y a ça descend très profond. Et puis, ça monte très haut aussi dans une sorte de transcendance. Enfin, il y a ce que j'aime beaucoup dans Racine, c'est qu'il y a une verticalité.
Ah, bah oui.
Avec une amplitude très grande. Et la plupart du temps, le théâtre, c'est horizontal, ça va d'un point à un autre. Et les grandes pièces, elles sont aussi verticales.
Bah, oui, surtout. Conceptuelles et ludiques.
Oui, mais ce n'est pas des concepts, comment dire, théoriques, c'est...
Non, c'est des thèmes.
Et puis en plus, en bas, c'est vraiment le bouillonnement des...
Oui, des sens, des sentiments, des transports.
Des transports.
Voilà.
Ils sont parfois en commun, d'ailleurs.
Et vous avez un personnage qui vous attache le plus un personnage que vous préférez dans tout ce que vous jouez?
Le personnage principal, c'est le texte.
Oui, d'accord.
Donc, je suis tout le temps avec.
Oui, d'accord.
Mais peut-être sur les trois tragédies, il y en a une qui vous tient un peu plus à cœur.
Je me suis souvent demandé, et en fait, celle qui me tient le plus à cœur, c'est celle que je suis en train de jouer. Donc,
le moment présent, c'est bien.
Ouais. Alors, de toute façon, c'est vraiment une des conditions... absolu de ce type de travail, c'est d'être au présent pur. Ni en avance, ni en retard.
Oui.
Sinon, je me posais la question du rapport au public, parce que déjà, de faire un de ces spectacles qui dure, je pense, deux heures et demie, c'est quelque chose, c'est une performance, à la fois pour vous sur le plateau, à la fois pour le public, je pense, qui vous écoute.
Je pense que c'est...
Et comment donc un spectacle qui, de cette fois, durera 6 heures à peu près, je pense, voire
sept,
comment faire pour garder ce public en dehors du risque de partir dans quelque chose qui deviendrait de la logorée, du coup, pour ses oreilles à lui? C'est compliqué de garder un alexandrin pendant 7 heures.
Je ne sais pas s'il y aura parmi le public des gens qui se taperont les trois. C'est pas obligatoire. Hein. Ça peut être une, voire deux, voire trois, s'il y a des fous furieux. Mais donc, je me pose pas cette question. S'il reste, c'est qu'ils ont envie de voir à quel moment je vais me casser la figure, à quel moment je vais tomber dans les pommes. Enfin bon, il y a plein de motivations pour lesquelles on peut rester. Et puis il y aura de toute façon cette pause qui sera d'une heure et quart et qui permet à tout le monde de
respirer,
ouais, et puis de
se restaurer.
De se restaurer, ouais.
Vous pouvez nous rappeler les dates et les lieux.
Il y a une date.
Une date.
C'est le 2 décembre à la Célestine, dans la petite salle des Célestins, quoi.
Et du coup, ça commence à quelle heure?
15h.
15h, et donc ça...
15h, Andromaque. Bérénice, 18h30. 22h, Phèdre. Et Minuit 30, la cerise sur le gâteau, c'est une petite farce de Pierre Dac qui s'appelle Phèdre à repasser. et le titre est suffisant pour dire comment c'est. C'est vraiment un pastiche, une déconnante sur Phèdre de Pierre Dac. Et alors là, c'est vraiment pour éventuellement remercier.
Ce qu'ont tenu le coup.
Ouais, et puis vraiment, c'est une déconnante. Et en plus, je trouve que c'est pas mal, après avoir quand même une bonne dose de choses très compactes et denses, de faire un petit clin d'œil au public pour dire que on peut rigoler aussi, quoi.
Eh bien, merci Jean-Marc, merci d'être venu nous voir.
Je ne sais pas si je reviendrai jamais, parce que je ne sais pas dans quel état je vais en sortir.
Oh, mais tout va bien se passer. En tout cas, un gros merde pour...
Sur une petite voiture.
Ouais, un gros merde pour le 2 décembre, alors.
Ouais. C'est Austerlitz, le 2 décembre. Donc c'est mieux que Waterloo.
Voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est mieux que Waterloo.
Das Lied von der Unzulänglichkeit. Kennen Sie nicht? Können Sie was lernen? Der Mensch lebt durch den Kopf, sein Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur von deinem Kopf, lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben Thesen, Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug. Doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renn nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug, darum all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum hau ihn eben ruhig auf.
Nous accueillons enfin Combord pour sa chronique paysagère. Bonjour Combord.
Bonjour.
Alors tu es venu tout seul aujourd'hui?
Eh oui. C'est la petite chronique hebdomadaire et paysagère dans cette émission du théâtre de la Gamelle. Aujourd'hui, la mise en abîme, c'est sur la distanciation entre l'auteur et ses personnages. Ça s'appelle le relevé de compteur. Il était une fois un auteur qui s'autopsiait. Peu lui importait de n'être pas édité. Ses liaisons avec les personnages sortis de ses observations valaient toutes les reconnaissances du monde. Non qu'ils fussent jaloux à l'idée qu'ils se donneraient à tout lecteur qui se pencherait sur l'œuvre, mais l'essentiel était de réaliser. La suite ne le regardait pas. Le temps perdu à prospecter, à justifier, à corriger, grèverait aussi sa passion des monstres. Or, au fil du temps, la promiscuité des créatures concentrées les animait de nouveaux desseins. Toutes les goules, tous les vampires appréciaient de moins en moins de n'effrayer personne, de n'avoir aucune prise sur les esprits perturbés. Un livre, selon eux, avait pour but d'alimenter les chroniques. La noblesse de la fiction se mesurait au nombre de colonnes conquises dans la rubrique « Faits divers » ou, plus chic, « Politique internationale ». Alors, au lieu de roupiller sous les couvertures, surveillés par les pages de garde, les personnages conspirèrent. « J'ai écrit 25 livres !» se réjouissait l'auteur qui s'autopsiait. Mais il ne s'enquérait pas de la santé des narrateurs, personnages secondaires, ni même des 6 actants repérés par Souriau dans son analyse des 200 000 situations dramatiques. Force orientée, FO, le bien souhaité, BS, l'obtenteur souhaité, OS, l'opposant, OP, l'arbitre de la situation, AR, l'adjuvant en chef, AC. Si l'humilité l'avait contaminé, replongeant son nez dans les pages creusées par les stillons de son silo, quelle n'aurait été sa stupéfaction de se découvrir affilié au nouveau roman, les objets ayant pris la place abandonnée par les protagonistes en fugue. Un jour, un agent EDF sonna à la porte de l'auteur. L'auteur, qui s'autopsiait, détestait ce genre de coupure en pleine inspiration. Il avait coutume de ne pas quitter sa table de travail pour ses broutilles, qu'il était aisé d'identifier par l'analyse de la sonnette que le fonctionnaire actionne comme le troufion claironne l'ouvrir le banc. Et d'ailleurs, à EDF, on n'est plus fonctionnaire. Mais l'agent, fait exceptionnel, sonna une deuxième fois, puis une troisième. L'auteur qui s'autopsiait aurait trop souffert a posteriori d'être resté froid devant le courage et l'investissement professionnel dont faisait preuve l'employé. Il posa un point n'importe où sur la table et fit entrer le barbu aux lunettes doubles. Double densité.
« Où est le compteur ?»
demanda l'homme qui salivait beaucoup pour s'exprimer. « Et de façon banale, à côté de la porte, » répondit l'auteur qui, finalement, n'était pas de si méchante humeur. Mais aussitôt, l'intrus claqua lui derrière lui et prit celui qui avait toujours payé ses factures sans rechigner par le col, le poussant contre le mur du couloir.
« Il ne tourne pas » hurla-t-il.
En un clin d'œil, l'appartement de l'auteur qui s'autopsiait se peupla d'une foule anonyme aux intentions hostiles. L'auteur n'en connaissait aucun personnellement, et pourtant aucun ne lui était étranger. Il ne les avait pas tout à fait visualisés comme ça. « Qui êtes-vous » dit-il en bavassant à son tour. « Que branlez-vous chez moi hein ?»«
On relève le compteur »
répondirent-ils en fouillant toutes les pièces, tous les recoins. « Mais il est près de la porte !» réitéra l'autre comme un enfant compuni. Leurs investigations achevées, patemment sans succès, la masse grossissante des conjurés encercla l'auteur autopsié, acculé à présent dans la cuisine.
« Assieds-toi » ordonnèrent-ils.
Il s'assit. Un groupe de 3 lascars aux corps étranges se fraya un passage jusqu'à lui. Il soupesait les 25 manuscrits sans personnage. Les 3 liasses résonnèrent sur la table dans le tiroir de laquelle les couverts sursautèrent.
« Lis !»
dit le plus velu d'entre eux. « Mais je ne peux pas !» supplia l'auteur. Un homme qui se prétendit commissaire spécial chargé de la surveillance des anarchistes posa un vieux modèle de boîte d'allumettes à côté des feuillets. Il n'y avait plus assez de place dans l'appartement de la rue Cuvier, et l'auteur pensait à ses encyclopédies d'insectes et d'oiseaux qu'on se gardait bien de stocker dans une même boîte pour éviter l'anéantissement des uns par les autres. « Écoutez, essaya-t-il, je veux bien prévoir un tiroir par ouvrage, mais je ne peux pas les immoler décemment. »«
Décemment ?»
rebondit un homme qui se tenait raide contre le frigidaire. « Tu m'as attribué le nom d'une ville de la Manche et privé de système digestif.
Fécamp, c'est en Seine-Maritime, pas dans la Manche, bien que sur la Manche, »
murmura l'auteur, le front bas. « Décemment, » reprit une vieille nourrice toute espagnole, « tu as créé des hécatombes, mais ceux qui sont tombés, tu ne les as pas relevés, mais fait disparaître. » « Décemment, » ajouta une espèce inconnue de grenouille, « tu as donné la parole à des animaux sans conjoint et tu les as embrigadés alors qu'ils espéraient faire quelque chose de leur vie. « Décemment, qu'est devenu mon bateau poubelle ?» demanda plus crûment un capitaine à la peau rongée. Celui-là cherchait ses mots. Depuis le temps qu'il était parti sans retour.
« Je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le savoir !» cria l'auteur qui s'autopsiait. « La foule était si dense qu'il était incapable de bouger un petit doigt. As-tu repensé à cette navette dans l'espace figé et accessoirement à ce sang que j'ai versé en ton nom ? Ramène l'échelle, que je descende, que je revienne. Je ne suis pas seul au monde, bordel. La voix de l'astronaute était lente. Il cherchait ses mots. Depuis le temps qu'il était parti, sans retour.
Et l'odeur toussait.
Ah, si seulement cet astronaute avait eu un peu plus de haine pour pallier. Et cette prison, menacèrent quelques femmes qui sortaient tout droit d'un chenil. L'appartement de l'auteur qui s'autopsiait se rétrécissait. La sirène des pompiers ressemblait à un miaulement ou à une porte mal graissée. Nous n'en sortirons pas, soupira l'auteur. Et mes pages qui attendent. Non, acquiesça un graveur en opinion du chef. Vladimir, destin doublement douloureux, avait réellement existé et s'était pendu à sa poignée de porte dans le livre d'un autre. Il était condamné à mourir sans cesse, de trois façons différentes, dont une seule définitive. Son savoir devait être grand. Mais, dit l'auteur, n'ai-je pas fait preuve d'assez d'humour en vous créant ? Ne l'ai-je pas fait pour proposer une autre réalité que celle diminuée que nous impose une société inique ? Et il toussa. Inique ta mère ! Trancha une jeune femme à la mode de celle qui, au XVIIIe siècle, faisait pénitence. À un moment donné, tu nous as fini. Mais toi, tu n'as même pas envisagé ta propre absence. Tout s'arrête à un moment donné. Nous voulons évoluer. Mais comment peux-tu parler un français si moderne, toi qui es du XVIIIe siècle, voulut embrayer l'auteur qui s'autopsiait. Mais là n'était pas le sujet. Ils crièrent tous d'un commun crève-cœur. Renie les cris. Qu'au moins nul ne vienne après nous subir le même cauchemar qui est celui de la finitude. Très bien. Le calme avec lequel celui qui semblait en minorité posa sa réponse saisit plus d'un personnage de fiction, là, dans sa cuisine. Il attendit le moment de latence qui succède à la surprise pour envoyer de nouveau « J'échange ». Et aussitôt il ne fut plus là. Tous les personnages se regardèrent comme le coq de bruyère en émail des Durands. Occasion pour eux de se découvrir à cet instant cosmopolite. Au sommet des trois piles de manuscrits, les couvertures en bristol entr'ouvertes exhibaient chacune leurs lettres de refus, comme des danseuses de French Cancan. Ce fut progressif. Une cinquantaine de mains abordèrent timidement les pages. Des groupes disparates, polymorphes, se constituaient autour de tel ou tel récit. Des lèvres essayaient de suivre l'écriture. Il l'avait fait, le goujat. Au fil des chapitres de tous ses livres, un même et seul personnage passait les étapes, discutaillait avec lui-même, correspondait à toutes les descriptions, monologuait des dialogues impossibles, mourait en se tuant comme un autre, était homme, femme, âne, enfant, dans un jardin, sous un chapiteau de briques rouges, dans un train de fumistes, sur le port de Toulon et en même temps sur le toit de l'hôpital de Lyon. Aussi, il défendait à sa propre barbe des thèses contraires, inconciliables, l'obsession. Eux, tous les personnages, dans cette cuisine, à l'étroit, dans cette cuisine crasseuse, lisaient, bâillaient sur ce qu'ils avaient manqué, leurs histoires, devenues encore moins crédibles, encore moins lisibles. Pourquoi l'auteur jouait-il au jeu d'y adhérer ? Il n'était pas destiné à cela. Pourquoi ne s'autopsiait-il pas plus devant, au-dessus, enfin, pas dedans, quoi, l'auteur dedans son texte. C'était proprement impossible. Quand l'agent EDF sonna, une fois, deux fois, trois fois, d'un commun et tacite accord, ils décélèrent le compteur par leur force conjuguée de personnages et le bloquèrent avec la mine d'un stylo. À ce point que le fonctionnaire, comme si de rien n'était, se remit à la table de travail et écrivit le ci-devant conte que vous venez d'entendre à la chandelle.
Merci Combor. Eh bien voilà, notre émission se termine. Il est possible de la réécouter sur le site de la compagnie Les Montures du Temps. La semaine prochaine, eh bien, ça sera surprise. Si vous voulez venir parler de votre spectacle, surtout n'hésitez pas à contacter la compagnie des Montures du Temps. Vous trouverez les coordonnées sur le site de la compagnie. À la semaine prochaine.
Hebdomadaire.
Hebdomadaire.
Je pourrais pas te faire un bon jingle.